Restez avec nous dans quelques instants. Notre panorama, que se passe-t-il sur le marché de l'immobilier en ces temps de crise? Nous serons avec trois experts, Maël Bernier, Stéphane Fritz et Henri Buzicazo. À tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Le taux d'emprunt est en hausse depuis des mois pour l'immobilier, cette remontée qui évidemment a des effets également délétères dans un contexte inflationniste. Selon Opinion System, 45% des crédits se voient actuellement refusés, principalement pour les 30-55 ans, et ce depuis le début de l'année. Aujourd'hui, qui peut se permettre d'acheter? Doit-on se contenter d'être locataire pour investir plus tard? Et jusqu'à quand? Que se passe-t-il en fait sur le marché de l'immobilier? Maël Bernier, directeur de la communication et porte-parole de Meilleur Taux, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
J'accueille également Stéphane Fritz, président du réseau immobilier Guy Hoquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous également en studio, Henri Buzicazo. Vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Alors, comment expliquer cette remontée des taux de crédit immobilier? Henri Buzicazo, tiens.
Écoutez, c'est simple, l'inflation
C'est toujours pèse... un peu aride comme sujet, je pense qu'on a toujours besoin d'expliquer
oui, oui,
ce
bien sûr,
se passe.
Mais on peut en donner une explication très simple, parce que
parce
les ménages...
on va parler de taux d'usure. Hein.
Les ménages ressentent bien les effets de l'inflation. L'inflation joue sur le prix des matières premières, des biens, de l'énergie, de l'essence, et joue sur le coût de l'argent. Voilà. Alors cette inflation, d'ailleurs, on dit qu'elle vient de... du conflit géopolitique en Ukraine, oui pour partie, mais il fallait s'y attendre. En réalité, c'est la crise sanitaire qui devait nous laisser prévoir cette inflation. On ne l'avait pas prévue ni aussi forte, ni aussi soudaine. Voilà. Donc elle nous prend de court et aujourd'hui, emprunter se fait à des taux fortement majorés, quel que soit le profil. Et pour certains profils, plus que pour d'autres, parce qu'ils sont porteurs de plus de risques au sens des banquiers, et ce fameux taux d'usure, on va en parler, il est bloquant, puisqu'il est un plafond pour les banques, et donc il y a des ménages qui n'ont plus accès au crédit. Voilà, il faut être clair.
Stéphane Fritz, comment vous analysez la situation du marché de l'immobilier dans ce contexte de crise, hein, avec un S?
Il faut dire que déjà, les taux étaient exceptionnellement bas depuis déjà plusieurs années. On a emprunté à 1%, à moins de 1%.
Alors aujourd'hui, pour que tout le monde comprenne, on est à 1,68 en moyenne.
1,68, oui. Mais encore pendant la crise Covid, on a trouvé des prêts à moins d'un 1%. Donc aujourd'hui, on savait déjà que ça allait augmenter. Hein. Depuis longtemps, on se doutait bien que les banques allaient augmenter. On se demandait pendant un moment, même si elles n'allaient pas nous donner de l'argent quand on allait emprunter. Donc, c'est pas seulement l'inflation aujourd'hui, c'est que les taux, ils étaient déjà prévus d'augmenter et que ça arrive maintenant.
Maël Bernier, votre analyse de la situation actuelle?
Alors écoutez, pour compléter un peu ce qui a été dit, c'est vrai qu'on a des taux qui ont monté très très rapidement, en gros depuis janvier. On est plutôt autour de 2% sur 20 ans, hein, si on est quand même en clair avec les barèmes tels qu'ils arrivent, en tout cas chez nous les courtiers aujourd'hui. Ça reste malgré tout des conditions de taux extrêmement favorables. Si on n'avait que ce taux de 2%, ça reste quand même de l'argent. Si vous voulez, si vous ramenez ça à l'inflation, en fait, c'est comme si vous empruntiez à un taux négatif. Donc, on est encore dans des conditions de taux extrêmement basses. Le problème aujourd'hui, c'est pas ce taux à 2%, parce que vous parliez du sondage tout à l'heure en disant il y a quasiment un prêt sur deux qui est refusé. C'est pas des prêts qui sont refusés parce que les Français dépassent l'endettement traditionnel de 35% qu'il faut pas dépasser. C'est des prêts qui sont refusés.
Ah oui, tout à fait.
À cause de ce fameux faut le préciser, à cause de ce fameux taux d'usure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on donne des réponses négatives à des Français qui ont effectivement entre 30 et 50 ans, parce que quand vous avez un taux d'usure qui est, rappelons-le, fixé à 2,57 sur 20 ans, taux d'usure c'est le taux max, c'est-à-dire c'est le taux max tout inclus, pour faire clair, vous prenez le taux du crédit, vous prenez l'assurance, la garantie et les éventuels honoraires des courtiers et frais de dossier des banques. Et aujourd'hui, vous avez un taux de base qui est à 2, et vous avez donc 57 points de base pour tout faire rentrer. Ça marche pas, ça peut pas rentrer. Donc c'est aussi bête que ça.
Alors on se demande aussi si les banques ne font pas pression pour que ce taux d'usure remonte. Alors il est revu tous les 3 mois, c'est bien ça,
oui,
Henri
Buzicazo. Oui, c'est ça.
Il est revu tous les 3 mois avec un mode de calcul qui a été fixé il y a longtemps, hein, par un texte de 2006, même s'il existait déjà avant. Il est l'équivalent, je parle sous le contrôle de Maëlle, hein, qui est spécialiste de ces sujets-là, de 133% du taux moyen constaté dans les 3 mois qui ont, dans les 3 à 6 mois qui ont précédé. Alors, il faut ajouter qu'on pourrait s'en passer de ce taux d'usure. Il a été fixé parce qu'il y a longtemps, il y a eu des
excès.
S'il
n'y avait pas taux d'usure, qu'est-ce qui se passerait? Les banques
mettraient
les taux qui...
Non, je pense qu'il faut tordre le cou à cette idée-là. Les banques sont très surveillées, très contrôlées.
L'idée du taux d'usure, voilà.
C'est de protéger le consommateur.
Protéger le consommateur.
Il faut voir qu'on est l'un des seuls pays à avoir un taux d'usure. Il y a quelques pays européens qui ont des taux d'usure bien supérieurs aux nôtres, donc des plafonds à 8%, 10%. On est une exception. C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez confiance aux établissements financiers. En réalité, aujourd'hui, la responsabilité des banques françaises, elle est établie. On pourrait s'en passer, je le dis très clairement.
Stéphane Fritz, on a l'impression que le marché de l'immobilier est en train de se crisper, de se figer. Parce que s'il n'y a pas d'emprunteur, il ne peut pas y avoir d'acheteur et donc pas de vendeur.
Pour plusieurs raisons. Oui, le marché aujourd'hui, je pense que ça siffle la fin de la récréation. On était sur un marché extrêmement dense, hein, sur 1 200 000 transactions. C'est le volume des ventes en 2021, ce qui est énorme. Donc, et pour plusieurs raisons, je pense que oui, ça va se contracter. Ça commence déjà à se contracter, notamment pour ce qu'a expliqué Maëlle et Henri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les refus de prêts ou Opinion System, je crois qu'on dit 45% de crédit en moins, je ne sais pas si c'est
45%
le cas.
45% de crédit refusé.
Refusé, ça me paraît énorme, mais ça ressemble
parfois
beaucoup.
Parfois avec des apports tout à fait raisonnables, hein, entre 30 000 et 40 000 euros. Je pense à des primo-accédants, hein, qui veulent acheter un bien qui vaut entre 350 000 et 400 000 euros.
Bon, on ne ressent pas encore les effets justement de ce ralentissement, voire... On commence à sentir un petit peu la négociation qui se passe, mais on sait qu'aujourd'hui, notre marché, il a une certaine inertie. Aujourd'hui, on encaisse des ventes qui ont été faites il y a 3 ou 4 mois. Déjà, donc, je pense que le début de l'année va être très compliqué, la fin de l'année également.
Maëlle Bernier, est-ce que vous pensez que les banques font pression, font exprès de rejeter les crédits, en fait, pour qu'on accède à leurs demandes, en fait, qu'on fasse péter le plafond, si vous me permettez l'expression?
Non, moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, je suis comme Henri, je ne crois pas du tout à ça. Je pense que les banques françaises sont extrêmement responsables. Elles ont des critères on a des critères en France d'endettement très stricts qu'ont pas les autres pays. On emprunte à taux fixe, on est les seuls quasiment européens, même nos amis allemands qu'on cite toujours en exemple, ils sont en semi-fixe. On a quand même un système de protection de l'emprunteur qui est à la fois une garantie sur le bien et une assurance emprunteur qui couvre en cas de problème de santé, notamment l'emprunteur. Il n'y a aucun pays au monde qui a ça. Les banquiers, leur but, ce n'est pas de surendetter la population française, parce que de toute façon, ça ne sert à rien derrière, parce que les gens ne peuvent pas rembourser. Ce qui est vrai, sur le terrain, je peux vous dire en tout cas que nous, les courtiers, on a des dossiers là qui sont en attente, où on dit aux gens, on revenait en octobre, on verra, ce sera peut-être mieux. Même les notaires commencent à dire que ça coince sérieusement. Et vous parliez tout à l'heure effectivement de bons dossiers. Moi, j'ai des dossiers d'apport avec des apports à 200 000 euros, des gens qui gagnent 10 000 euros, qui sont refusés juste parce qu'ils ont atteint l'âge canonique de 45 ans. Et qu'à 45 ans, vous payez un peu plus cher votre assurance. Je veux dire, c'est ça la réalité. Donc, ce taux d'usure qui était effectivement censé, au départ, protéger contre les excès des vilains banquiers, aujourd'hui, il ne protège plus personne parce que les seuls qui peuvent emprunter... qui passent encore, ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent se passer carrément du crédit. On en est là.
Henri Buzot, il faut ajouter que derrière les conditions de crédit, on dit ainsi, qui se sont durcies, il y a aussi la solvabilité, les moyens des ménages qui se sont réduits. On va voir dans les semaines qui viennent des ménages qui vont se censurer parce qu'ils vont voir que ce qui leur reste à la fin du mois ne leur paraît pas suffisant. Des ménages qui vont faire une étude par tel courtier, tel banquier, et on va leur dire, non, effectivement, votre reste à vivre, comme on dit, est insuffisant. Les ménages sont éprouvés aujourd'hui dans leur solvabilité, dans leur pouvoir d'achat, il faut être très clair. Dernier sondage Elab, j'en prenais connaissance en venant vous retrouver. Aujourd'hui, près de 60% des Français sont inquiets sur le pouvoir d'achat. Je crois que c'est plus de 10 points par rapport au précédent sondage. Ils sont inquiets aussi sur la transition environnementale. On va peut-être en parler d'ailleurs.
On en parlera.
Mais très clairement, il y a un sujet de fragilisation économique des ménages, au-delà de la question des taux d'intérêt.
Stéphane Fritz.
Aujourd'hui, on parle de la solvabilité parce que l'augmentation des coûts de matières premières, le coût de l'énergie, ça a forcément lourdement impacté le pouvoir d'achat des ménages. Qui plus est, aujourd'hui, le logement, c'est 30% aujourd'hui du budget des ménages, bien avant l'alimentation ou l'énergie. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième, c'est cette taux d'usure et justement ces taux de crédit qui augmentent et donc qui désolvabilisent. Je reviens pleinement à ce que tu dis. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une régulation du marché entre l'acheteur et le vendeur. C'est qu'au départ, le vendeur avait vraiment la main aujourd'hui, c'est-à-dire que l'argent était tellement bas que le vendeur avait la main et donc s'en est servi pour augmenter les prix, c'est ce qu'on a vu. Et qu'aujourd'hui, je pense que le marché va se contracter, il va y avoir un peu moins d'acheteurs et peut-être que on peut parler d'une baisse de prix, on commence à avoir de vrais ralentissements partout en France.
Donc les prix vont baisser, c'est aussi ce que vous anticipez, Maëlle Bernier.
Alors moi je suis je suis pas spécialiste des prix, mais en fait moi je pense quand même qu'il y a plusieurs marchés immobiliers on voit très bien notamment dans les villes en région que les appartements sont effectivement plutôt en train de se stabiliser voire baisser, mais que les maisons avec jardin font quand même face à une demande assez forte. Et puis surtout ce qui se passe, c'est que pour que les prix baissent, il faudrait qu'il y ait un afflux massif de biens sur le marché. Or, ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont déjà propriétaires et auxquels on va dire non, taux d'usure, ça passe pas, ou ils vont pas revenir sur le marché, ils vont rester où ils sont. Mais ils vont pas vendre parce qu'ils peuvent pas rembourser leur crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, sur la baisse des prix, je pense qu'il y a certains endroits où c'est effectivement en train de se faire, mais il y a vraiment des particularités, et notamment sur les biens avec extérieur, qui sont, eux, pour l'instant, extrêmement préservés. Et tout le monde a des témoignages autour de lui de maisons familiales qui se vendent très, très vite parce qu'acheteurs quand même, quoi.
Henri Buzekas.
Elle a raison, mais quand même, moi, je souscris à l'analyse, à la prévision prudente que fait Stéphane. Qu'est-ce qu'on a de l'inflation aujourd'hui? On a le mauvais côté, c'est-à-dire des prix qui augmentent, des prix de l'argent aussi, et on n'a pas l'inflation des salaires encore. Bon, parce qu'on entend des générations, nos parents, grands-parents, selon nos âges, qui disaient « mais l'inflation, c'était formidable ». Oui, mais parce qu'il y avait l'inflation, et c'est un débat, des revenus. Si l'inflation compense, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a bel et bien, on va dire, un appauvrissement des ménages. Et je crois quand même que ce qui a marché dans un sens, la baisse des taux depuis une vingtaine d'années, oui, a conduit à la hausse des prix. Eh bien, dans l'autre sens, on va avoir une hausse des taux qui va conduire à un assagissement, voire à une correction. Il y a quand même des villes moyennes qui ont augmenté de 12...
C'est-à-dire que ça faisait des années que les propriétaires faisaient passer l'inflation dans la valeur de leurs biens.
Non, mais très très, très clairement, c'était absorbé, voilà, pour utiliser un terme que tout le monde comprend. Vous augmentiez un prix de 5%, 6%, 7%, 8% par an, c'était absorbé parce qu'on pouvait y arriver, les ménages arrivaient à acheter. Et aujourd'hui, oui, je pense quand même qu'il va y avoir une correction due à des taux d'intérêt majorés et à un appauvrissement de beaucoup de ménages.
Stéphane Fritz, tout ça est artificiel.
Non, les taux bas, il est clair que les taux bas aujourd'hui, ça fait qu'on emprunte l'argent à pas cher et on le retrouve tout le temps dans le prix du vendeur. À chaque fois qu'on a fait des aides, par exemple, à chaque fois on a retrouvé dans le prix. Donc aujourd'hui, quand ça se contracte, moi je pense qu'on peut imaginer à minima au moins une stabilisation des prix, et très certainement, si jamais la crise devait durer, certainement des baisses. On le voit aujourd'hui encore, on commence à noter des négociations des acheteurs, et après arrive ce que tu disais tout à l'heure, Henri, la rénovation énergétique, ça va avoir un coût. Donc déjà, c'est 900 000 logements impactés.
On en parle
après
une petite
terme.
Pause, d'accord, si ça ne vous dérange pas. Voilà. La déclaration du soir, c'est Bruno Le Maire qui nous dit qu'il n'y aura pas d'amélioration sur le front de l'inflation avant 2023. Vous nous direz également à cette occasion, quand est-ce que c'est le bon moment pour investir? Évidemment, hein, vous êtes aussi là pour ça, pour nous conseiller, nous éclairer. A tout de suite sur Europe 1, on reprend notre conversation sur ce marché de l'immobilier en pleine crispation. A tout de suite.
Europe 1.
L'inflation, la hausse des taux d'intérêt perturbe le marché de l'immobilier. La transition énergétique aussi, figurez-vous. Nous en parlons avec Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de MeilleurTaux.com, Stéphane Fritz, président du réseau immobilier Guy Hoquet, et Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. C'est dans quelques instants. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé. Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Demain, venez découvrir le récit de trois personnages qui ont l'amour du risque.
Le champion de cyclisme italien Gino Bartali, qui a pris des risques pendant la guerre en livrant de faux papiers là où la résistance le lui demandait. Puis lui a pris des risques toute sa vie, mais des risques toujours calculés selon lui, le cascadeur Rémi Julienne.
Et un ex-trader qui a fait des calculs aussi, mais pas forcément les bons, Jérôme Kerviel.
Historiquement vôtre, votre émission de récits historiques.
À demain dès 16h sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Avec Maëlle Bernier, Stéphane Fritz, Henri Buzy, Cazot, je reprends cette déclaration, elle, toute fraîche, elle vient de ce soir, c'est celle du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Pas d'amélioration en vue avant l'année prochaine sur le front de l'inflation. Quand va-t-il falloir investir dans l'immobilier, Stéphane Fritz ?
Il est toujours temps d'investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, l'argent ne reste pas cher. Et puis encore, c'est des projets à 15, 20 ans et pas des projets à 2 ou 3 ans. Tant d'une crise. Les crises aujourd'hui, elles sont, je crois, de plus en plus, on les a de plus en plus resserrées. Par contre, elles sont aussi de plus en plus brèves. Donc, je pense qu'il est toujours le temps d'investir dans la pierre. Pour autant, faut-il avoir les moyens de le faire compte tenu des conditions d'aujourd'hui.
Maëlle Bernier, votre pronostic ?
Ah, écoutez, moi, sur le côté investir, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est toujours le moment. Et puis, c'est un moment de vie, en fait. Quand on achète dans l'immobilier, c'est parce que on attend un enfant, on se marie, on divorce. Enfin, bon, c'est un peu tout ça. Et si vous voulez, il faut se dire qu'à un moment donné, payer un crédit pour avoir un toit qui va vous appartenir quand ensuite vous aurez certainement une baisse de revenus, peut-être allée à la retraite, c'est une sécurité. Ça reste une sécurité. C'est quand même un placement. Vous achetez votre toit. Je parlais tout à l'heure de l'assurance emprunteur. C'est quand même extrêmement important parce que vous protégez, mais vous protégez aussi vos proches parce que s'il y a un problème de santé ou un décès, la maison, elle est payée en clair par l'assurance emprunteur. Hein. C'est aussi bête que ça. Donc, c'est une formidable assurance vie. Donc, je pense que quand on est dans une situation stable de vie professionnelle et personnelle, et à un moment donné, ça peut être bien de se dire qu'on va peut-être acheter un bien immobilier.
Inflation élevée ou pas, Henri Buzy-Cazot.
Non, puis aujourd'hui, pourquoi on est en souffrance ? Pourquoi vous faites cette émission aujourd'hui ? Parce que c'est une charnière. L'équation des ménages, elle va se rééquilibrer. Typiquement, regardez le livret A, bon, qui est un produit populaire. Eh bien, son taux de rémunération a suivi l'inflation. Il est aujourd'hui à 2%. Il va encore augmenter. Bon, les placements vont augmenter. Il y a une épargne constituée pendant la Covid des ménages supplémentaire de l'ordre de 220-230 milliards. Elle est là. Les ménages vont en faire bon usage. Ils vont voir une épargne qui est mieux rémunérée. Donc, les revenus vont augmenter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je l'ai dit, mais ils ne pourront pas ne pas augmenter et suivre ce mouvement qui est de moyen terme. Hein. Bruno Le Maire le dit, 2023-2024. Donc, l'équation, elle va se rééquilibrer. Et à partir de là, acheter de l'immobilier ne présentera pas moins d'intérêt qu'il y a un an, deux ans ou cinq ans.
Très bien. Alors, il y a un autre paramètre, et non des moindres, c'est l'une des priorités édictées cette fois-ci par le président de la République ce matin au Conseil des ministres, la transition écologique. Alors, ça n'était pas conçu pour ça, hein, en pleine période de sobriété énergétique. La loi climat-résilience a été votée l'année dernière. Une disposition entre en vigueur aujourd'hui. Si vous êtes locataire d'une passoire énergétique, comme on dit. Il y a 900 000 logements, je crois, qui sont soit G, soit F, donc très énergivores. Vous n'avez plus le droit d'augmenter le loyer. Ça va créer de la tension, ça aussi, Stéphane Fritz.
Oui, alors, les passoires énergétiques, c'est aujourd'hui, en tout cas, s'agissant des classés...
C'est une rénovation contrainte et forcée.
Aujourd'hui, c'est de l'avis de tout le monde, c'est nécessaire. Je veux dire, c'est nécessaire aujourd'hui à deux titres. Hein, déjà parce qu'on ne peut pas loger dans des passoires énergétiques des gens où il fait chaud l'été et froid l'hiver. Je pense qu'il faut. Et puis après, la planète, c'est un vrai enjeu qui aujourd'hui met tout le monde d'accord. Quoi. Il faut arrêter d'en parler, il faut maintenant le faire. C'est la première mesure, le 24, là, aujourd'hui. C'est la première mesure aujourd'hui assez concrète qui a un impact, qui dit on gèle les loyers. Aujourd'hui, le classe F et G, ça concerne 900 000 logements. Et ensuite, à partir de l'année prochaine,
des
au
logements,
1er janvier...
Je crois qu'il y a 5 millions de passoires thermiques, un peu oui, plus en France
2.
Au total.
5 millions 2,
exactement, oui. Et c'est 900 000 logements qui peuvent être loués, hein, si j'ai bien compris.
Qui peuvent être loués aujourd'hui, mais pas révisés. Et à partir du 1er janvier 2023, ce sont les G, donc 140 000 logements qui ne pourront plus être loués. Donc là, c'est vraiment concret.
Oui, mais il n'est pas question de dire, enfin moi je donne mon sentiment, on a assisté à tous les dérèglements climatiques là au cours de ce mois d'août, à nos portes, comment dire qu'il ne faut pas le faire ? Le secteur immobilier, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre.
La question n'est pas de savoir
c'est
si,
comment
si, bon. Si, s'il faut le faire ou non, c'est à quel moment il faut le
Alors,
faire.
Alors, à quel voilà. moment ? Il y a un échéancier dans la loi du 22 août 2021 que vous avez évoqué, donc elle a un an, un échéancier qui, en gros, nous donne 10 grosses années pour transfigurer le parc locatif, là il y a un mécanisme d'interdiction autrement, donc c'est sévère, c'est sûr, mais aussi qui encourage les copropriétés en général, et les propriétaires de maisons individuelles. Ce mouvement, il est inéluctable. Alors, où est le problème? Le problème, ben, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça renvoie d'ailleurs, la vie de Maëlle est précieuse. Je pense qu'il va falloir que les banques aient des offres dédiées pour tous les ménages, pour financer les 10, 20, 30, 40 000 euros qu'il faut mettre pour changer le classement énergétique d'une maison. Les aides sont là, MaPrimeRénov', et selon les revenus, où elles vous aident un peu ou un peu plus, mais beaucoup de ménages ne sont aidés qu'à hauteur de 10 ou 15%, donc il va falloir puiser dans la poche des Français. Il faut être très clair là-dessus, il faut être honnête.
Maëlle Bernier.
Bah oui, c'est tout à fait ça. Alors, moi, la seule chose qui me... Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle dit, évidemment qu'il faut le faire. Le problème, c'est le calendrier. Le calendrier, il est quand même très, très court. Parce que quand on entend janvier 2023 des biens qui ne sont plus louables, si les gens sont dedans, on en fait quoi, ces gens-là? Parce que c'est quand même ça qui va se passer. Donc, les propriétaires, bailleurs, privés, souvent, ils ont investi locatif, mais enfin, ils remplissent quand même un rôle. Ils donnent un logement à des Français qui ne peuvent pas justement acheter souvent. Donc, moi, c'est sur le calendrier que j'ai effectivement un peu peur, parce que quand on sait qu'en gros, bah, ça va être de l'ordre de 1000 euros par mètre carré, quand vous louez un 40 mètres carrés, ça veut dire que vous avez 40 000 euros à sortir. Comme l'a justement dit Henri, bah pour l'instant, comment on finance ça? Qui finance? Enfin, je veux dire que tous les Français qui sont propriétaires bailleurs n'ont pas forcément les moyens de refaire un crédit à 40 000 euros. Donc voilà, il y a des questions qu'il va falloir se poser de financement. Les annonces, c'est très bien, mais je pense que, et on peut évidemment que saluer cette loi, mais il va quand même falloir se poser des questions de calendrier.
On n'en est plus au stade des annonces, hein. C'est aujourd'hui et le 1er janvier 2023, non, mais... c'est même demain, hein, Stéphane Fritz.
Oui, alors c'est ça. Je suis d'accord avec Maëlle sur le calendrier, mais il faut à un moment donné en poser un. Le ministre, il a montré qu'il était capable aujourd'hui pour les audits énergétiques, pour les classes F et G,
de repousser.
Donc à nous de leur... nous sommes des observateurs extraordinaires. Aujourd'hui, on explique aux clients déjà comment ils peuvent aller chercher MaPrimeRénov', quelle entreprise il faut. Il faut que les entreprises soient garantes de l'environnement pour pouvoir prétendre à des primes. Donc il va falloir être didactique, expliquer à chacun des acheteurs et des vendeurs ce vers quoi ils vont. Mais une fois qu'on va faire ça, je pense qu'avec aujourd'hui nos discussions avec le gouvernement feront avancer. On ne peut pas évidemment déloger 140 000 personnes, 140 000 locataires.
Henri Buzy-Cazot.
Oui, c'est le quinquennat du comment. Hein, comment on va faire? Il faut être très pragmatique. Vous savez, il y a la fiscalité aussi qui pourrait être améliorée. Et par exemple, éco-conditionner la fiscalité. Alors, c'est un grand mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a fait l'effort ou qui va faire l'effort de faire des travaux, eh bien, il paierait une taxe foncière ou des droits de mutation, les frais de notaire, s'il doit y avoir une acquisition, ou si les propriétaires qui puissent déduire davantage. Il faut revoir la fiscalité pour encourager les Français, les aider à faire cet effort financier qui est colossal, il faut être très clair.
Voilà, et puis à l'heure du tout écologie, alors c'est logement classé F, G, vous me le direz, vous me le confirmerez sûrement, ils perdent de la valeur, hein. On peut trouver des très beaux appartements.
Ça va peser sur les prix, je le crois.
Des très beaux appartements en plein cœur de ville comme Versailles, Paris, donc qui sont classés F ou G, mais qui sont à des prix défiant toute concurrence. Et justement, ça attire des locataires à petits revenus. Je pense surtout aux étudiants. 1,6 million, ça pourrait aggraver la crise du logement, en fait, ce type de loi.
L'enjeu, c'est effectivement qu'il n'y ait pas un assèchement de l'offre, notamment de location. Et les professionnels disent, attention, on entend des propriétaires qui disent, mais nous, on ne sait pas comment faire, et donc on va retirer ce bien du marché locatif. On va le vendre à quelqu'un qui va l'occuper lui-même, mais c'est le risque, et notamment les plus fragiles, les étudiants qui ont du mal à trouver une offre, les ménages qui ont leur premier emploi. Oui, il faut faire attention à ça, c'est le grand enjeu, qu'il n'y ait pas d'appauvrissement de l'offre de logement locatif, c'est le grand sujet. Attention à une écologie qui serait punitive et qui ne serait pas attentive aux conséquences. Aujourd'hui, on commence à les sentir.
Maëlle Bernier.
C'est exactement ça. C'est exactement ce dont je voulais parler tout à l'heure. C'est que il faut faire attention à ce que quand on est trop rapide et trop directif d'un coup, on se retrouve pas avec des gens qui effectivement retirent leur bien de la location ou le vendent, évidemment avec une ristourne parce qu'il y aura travaux à faire. Mais en tout cas, l'offre locative s'en sentirait appauvrie. Et je suis tout à fait d'accord. Sur le terrain, c'est des choses qu'on commence à entendre. Des Français qui disent, moi, je vais vendre parce que de toute façon, avec tous les travaux qui m'attendent, je préfère vendre. Donc, ça veut dire un bien locatif en moins.
Stéphane Fritz.
On constate ça et donc forcément une négociation à l'achat. Et aujourd'hui, les acheteurs commencent à vraiment tendre les relations acheteurs-vendeurs. Et quand je dis que. Alors, on est loin encore que le rapport soit complètement acheteur, mais je pense qu'aujourd'hui, les acheteurs ont bien compris la situation entre la baisse des pouvoirs d'achat, l'augmentation des taux et les travaux à faire. Le marché, oui, je pense qu'on peut s'attendre à des baisses de prix.
Alors, on constate aussi un vrai succès pour MaPrimeRénov', hein. On est passé en 2020, je crois, à 140 000 dossiers administrés et en 2021, donc l'année dernière, 660 000.
Exactement. Mais il faut être honnête. Il faut dire que cette prime, qui est bien conçue et elle est plus ou moins généreuse selon les revenus, elle est équitable. Hein. Faut être, je crois... tout à fait honnête envers les pouvoirs publics. Elle a profité aux propriétaires de maisons individuelles. Elle n'a pas profité aux copropriétés pour l'instant. En copropriété, c'est un échec. Trop complexe, pas assez puissant. Et là, je pense qu'il va falloir une offre privée de crédit. Et elle n'a pas profité aux propriétaires bailleurs. Donc, le succès de MaPrimeRénov', c'est la maison individuelle aujourd'hui qui est à son origine.
Stéphane Fritz, vous constatez la même chose?
Oui, on constate exactement la même chose aujourd'hui. C'est un petit peu complexe d'y aller. C'est la raison pour laquelle on essaie d'expliquer aux gens la façon dont on va justement se faire aider.
Maëlle Bernier, je vous donne le mot de la fin.
Bah écoutez, je vous avoue que là on est au mois d'août. C'est vrai que c'est ce que je disais ce matin. On a d'habitude on a des rentrées qu'on voit très clairement ce qui va se passer. Et c'est assez clair. C'est vrai que là la rentrée est quand même incertaine. Septembre-octobre, il va falloir attendre de voir comment évolue ce fameux taux d'usure, comment évolue la demande, comment évoluent effectivement les salaires. On rentre dans une zone où c'est dur de dire ce qui va se passer, pour être très clair.
Merci beaucoup Maëlle Bernier, vous êtes directrice de la communication et porte-parole de meilleurtaux.com. Merci Stéphane Fritz, président du réseau immobilier Guy Hoquet.
Merci.
Et merci Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut du Management des services immobiliers. On referme cette nouvelle édition d'Europe Soir en musique. Voici Jérémy Frérot, J'ai la mer.